Édouard, l'homme aux multiples talents, il ne se regarde pas le nombril pourtant. Il s'intéresse aux autres et est aussi un formidable dénicheur de talents. Tu organises tous les ans une soirée avec les amis de ta société Mediafine. Non pas dans un grand hôtel parisien comme on pourrait l'imaginer, mais au théâtre. Tu nous avais ainsi fait découvrir Alexis Michalik avec sa pièce Edmond des années avant qu'il devienne la coqueluche des Parisiens. Et puis aussi Sandrine Saroche, une féministe pleine d'humour et de tempérament, qui me rappelle que tu es entourée de femmes de caractère. La tienne d'abord, une juge au tribunal de Bobigny, je crois, puis, et aussi tes trois filles, de 23, 19 et 14 ans. Le mélange de fausse désinvolture et de culture de Sandrine Saroche, mêlé à un sens aigu de l'observation et de la formule juste, est aussi le tien, cher Édouard. Nous avons hâte de t'écouter, d'entendre ton analyse sur les temps actuels, d'autant plus que tu t'élèves depuis quelques temps contre l'hygiénisme ambiant. Je te rappelle que nous avons entendu il y a 2 semaines Martin Hirsch, qui a bien entendu prôné la prudence, puis Bertrand Badré, qui imagine une finance pour sauver le monde. Alors nous, qui sommes à la tête de modestes fondations, nous avons juste envie d'agir avec efficacité. Tes réflexions nous aideront peut-être. À toi, cher Édouard.
Bon, eh bien, écoutez, d'abord Sabine, merci, merci beaucoup pour ton invitation, merci beaucoup pour ces mots. Je ne sais pas si je les mérite. Heureusement, l'éclairage est très pâle aujourd'hui, donc je rougis, mais cela ne se voit pas. Je suis très très touché de ton mot. Je vais essayer d'approcher la description très louangeuse que tu viens de faire. Je suis très heureux de me retrouver devant vous. Alors c'est terrible ces trucs Zoom parce que on voit à combien on démarre. Donc là aujourd'hui il y a 21 participants et pour l'orateur on jette un œil au bout de 10 minutes, un quart d'heure, voir s'ils sont tous partis ou pas. Donc voilà, je vais scruter ce chiffre avec une certaine inquiétude. Vous voulez que je parle pendant combien de temps avant qu'on se fasse des questions-réponses, quel est votre pour prendre un mot à la mode, quelle jauge me donnez-vous ?
Une bonne demi-heure.
Ah voilà, une demi-heure. Bon, bah,
petite demi-heure. Une
demi-heure, voilà, très bien. Écoutez, je vais d'abord démarrer en disant que je suis très, très touché de vous parler. Je sais ce que vous faites. Je connais quelques-unes des personnes et quelques-unes des fondations qui sont réunies autour d'un esprit de famille. Donc cela oblige d'avoir une audience de personnes qui consacrent l'essentiel ou pour certains, certaines, la totalité de leur temps, de leur énergie aux autres, à la philanthropie, à faire en sorte que nos sociétés, dans toute leur diversité, parfois leurs incohérences, parfois leurs violences, à faire en sorte que nos sociétés continuent d'avancer droit et que cela et faire en sorte que cela donne du sens. Je vous propose de vous faire un petit dégagement sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Avant de vous dire comment pour moi, je crois effectivement qu'une initiative telle que celle des États généraux que je propose, et les États généraux en 2022, pourrait être une réponse à une société française dont les membres ne savent même plus pourquoi ils sont ensemble, ne savent plus au nom de quoi ils sont réunis. Et voilà, donc je vais essayer de développer ça dans quelques minutes. En ce moment, c'est très difficile de faire de grands dégagements et des plans parce que, on va se donner un exemple très concret, dans 48 heures, nous ne savons pas si le président de la République va nous enjoindre, nous ordonner de rester dans un périmètre de 100 km, savoir si nous allons avoir 72 heures pour ouvrir nos maisons en Bretagne, à l'île de Ré ou ailleurs, savoir si nous allons être à nouveau confinés, savoir pour des sociétés grandes ou petites, si nous allons à nouveau vivre un moment de fermeture qui va faire s'effondrer davantage le chiffre d'affaires, non seulement le chiffre d'affaires, l'activité, mais aussi l'envie et la capacité à se projeter. Nous vivons cette période-là. Je pense que vous êtes peut-être nombreux à avoir des enfants ou des petits-enfants. Nous vivons cette période étrange où nous pouvons difficilement faire des projets au-delà de 48 heures, 72 heures. Cette période étrange où une génération de jeunes diplômés, plus ou moins diplômés, arrive sur le marché du travail et on lui demande de patienter. On lui dit merci, mais revenez plus tard, parce que là, nous ne sommes pas prêts pour vous. Il y a une urgence sanitaire, une urgence épidémique. Deux, trois chiffres là-dessus. Je ne sais pas si Sport dans la ville est une association qui est connue de vos services. Sport dans la ville, chaque année, réussit à sortir des promotions d'à peu près 1000 jeunes des quartiers plutôt difficiles, défavorisés. Et sur les 1000, les entreprises qui parrainent Sport dans la ville réussissent à leur proposer, bon an mal an, entre 900 et 950 stages chaque année. Aujourd'hui, le nombre de stages CDD, alternance proposés est de 150. Donc tout d'un coup, là, on se retrouve avec une jeunesse qui est motivée, qui a envie de s'investir, à qui on a mis le pied à l'étrier, mais on lui demande de descendre de cheval. 150 au lieu de 850. Vous faites ça à l'échelle du pays et vous faites ça à l'échelle des 700 000 jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, et cela vous donne une idée du désarroi. Je parle pas de colère encore, mais du désarroi, de l'inertie, du risque de léthargie, parfois aussi du risque de sentiment d'injustice qui est en train de se construire dans le pays. Avant de parler de colère, je trouve que c'est surtout la fatigue que l'on sent qui s'installe. La fatigue, je le vois autour de moi. Je vais, pardon, de parler d'elle. Sabine a donné l'âge de mes filles. Elles font plutôt partie des enfants qui sont motivés, qui ont suivi un parcours bon ou correct. Et là, tout d'un coup, elles avancent, mais il y a une interrogation. Est-ce que ces cours que l'on suit désormais quasi exclusivement en ligne. D'abord, est-ce que c'est véritablement un savoir que j'acquiers? Évidemment, la sociabilité est beaucoup plus difficile sur Zoom, et on est en train d'en faire l'expérience, que dans la vie réelle. Et pour celles et ceux qui choisissent de faire des études supérieures, est-il certain que le diplôme que j'aurai à la sortie, pour lequel je me serais battu, va me donner un accès? Je vous renvoie aussi aux chiffres du... Le Secours populaire a fait une enquête qui est sortie en début de semaine dernière. Et alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais en gros, au printemps, ils servent pour 1,2 million de personnes. 1,2 million de personnes ont accès au service du Secours populaire en France. Et là, aujourd'hui, il y a eu 45% de nouveaux inscrits. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 500 000 personnes nouveaux venus au Secours populaire qui n'étaient pas dans leur base de données, qui n'étaient pas dans leur filet avant. Et quand on lit l'enquête de près, de quoi s'agit-il? Il s'agit de familles. Il s'agit d'étudiants qui avaient des petits jobs, restauration, etc., qui n'ont plus le petit job qui permet d'avoir une vie plus agréable ou tout simplement de financer ses études. Ça, vous voyez, c'est pas dénigrant ce que je dis. On a eu la révolte des paumés, qui était la révolte des gilets jaunes, et on a vu le caractère sérieux de cette révolte, mais aussi une révolte qui ne s'est pas installée dans la durée. Ce qui m'inquiète beaucoup plus que la révolte des paumés, c'est demain la révolte des chefs de famille. les chefs de famille, qu'ils soient garçons, filles, mères élevant seules ses enfants, parents. Là, on a ce sujet qui est en train, je crois, d'arriver. La fatigue qui s'installe. La fatigue et puis le désarroi. Le désarroi parce qu'il y a des choses que l'on tenait, des rapports, des liens de cause à effet que l'on tenait pour évident dans le passé qui sont en train de s'effriter. Je vous en prends un très simple, celui le rapport entre le travail, l'effort et la rémunération ou le patrimoine. Quand on grandit tous, on disait ben, plus on travaille, plus on fait d'efforts, plus on a des revenus qui permettent de développer un patrimoine. Aujourd'hui, je ne dis pas que le chômage partiel est une mauvaise chose, mais aujourd'hui, nous imprimons dans l'esprit de millions de Français le fait qu'il est normal d'attraper une rémunération sans qu'il y ait un travail en face. C'est la réalité du chômage partiel, qu'il s'agisse des petites, grandes entreprises ou de la fonction publique. L'autre réalité, moi qui me terrifie, c'est je conseille des chefs d'entreprise, plutôt d'entreprises groupes cotés, donc qui ne sont pas forcément les plus petits, mais qui ont donc avec des salariés qui sont pas au SMIC, hein, souvent. Et les salariés arrivent en disant, attendez, c'est très bien le chômage partiel qui couvre 84%, mais on compte bien sur vous pour les 16% restants. On est en train d'installer dans l'esprit des gens une décorrélation entre le travail, l'effort et la rémunération. De la même façon, si certains d'entre vous ont des portefeuilles boursiers, des actifs en bourse, une décorrélation encore plus grande est en train de s'installer entre l'état général de l'économie et la valorisation des actifs financiers. Je peux ne plus travailler, avoir mon entreprise qui est en vitesse réduite, mais le cours des actions de ma société continue de s'envoler. Grand désarroi. L'autre perte de repère que l'on a, qui n'est pas nouvelle, mais qui, je crois, est renforcée par l'épisode que nous vivons autour du coronavirus, c'est une société fragmentée, un peu désorientée, et qui se cherche d'autant plus de sens qu'elle a du mal à se donner un passé, une histoire commune. Moi, j'ai vous voyez qu'on va pas épiloguer sur nos. Je pense que nous venons de générations où l'homogénéité de la France n'était pas une affaire ethnique ou religieuse ou sociale, mais c'était une homogénéité qui faisait que nous partagions une histoire commune. Cette histoire avait ses heures sombres, ses heures lumineuses, mais ce que nous avions appris était plutôt des heures lumineuses, c'était celles que nous retenions, et nous avions ce passé, cet héritage en commun. Aujourd'hui, nous voyons bien que même ce passé-là, nous ne l'avons plus en commun. Je prends, pour mettre les pieds dans le plat, je prends le sujet un petit peu délicat de la colonisation. White man's burden, comme disait Rudyard Kipling. Il se trouve que j'ai un arrière-grand-père qui a fait partie des mouvements qui a colonisé une partie de l'Afrique. Une ville a été nommée en son nom, qui s'appelait Udaiville. Et dans la famille, on comprenait que effectivement, il était militaire. Il était venu dans ce pays pas tout à fait invité par un Bristol, mais que le legs de ce travail de colonisation n'avait pas été médiocre pour le pays en question. Construction de villes, de réseaux ferrés. C'était un ingénieur. Et puis tout d'un coup, nous avons un chef de l'État qui explique que la colonisation est en fait un crime contre l'humanité. Et d'un coup, cet héritage, où on comprenait qu'il y avait une part violente, une part qu'il fallait retravailler, mais tout d'un coup, mon arrière-grand-père était comparé à Eichmann. Et, 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 et là, on a un petit peu de difficulté à retrouver un héritage, un socle commun. Je reviens à 2000, à la suite. Si nous allons avoir, si nous comprenons que nous avons du mal à nous définir ensemble par une histoire ou une identité partagée, alors au moins faisons en sorte d'avoir un avenir en commun, un avenir que nous écrivons, que nous écririons ensemble. Vous allez me dire, c'est le principe de la démocratie. Et tous les 5 ans, nous votons pour décider ensemble quel sera majoritairement l'avenir que nous voulons pour le pays. Oui, mais voilà, nous sentons bien que nous touchons aussi aux limites de ce fait majoritaire. Nous voyons bien, alors d'autres que moi, mieux que moi l'ont expliqué, que le fait majoritaire devient de plus en plus insupportable, inacceptable ou intolérable pour la minorité. La minorité qui va contester, bloquer, revendiquer, qui fait que le pays devient effectivement de plus en plus difficile à gouverner. Je ne m'en cache pas, moi j'ai vu en Emmanuel Macron la possibilité de concilier des irréconciliables, la possibilité de faire travailler ensemble la droite, la gauche, pour tisser justement cet avenir commun. Nous voyons que cela aussi, nous arrivons aussi à ces limites-là. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors bien sûr, on peut se dire, 2022, voilà, c'est l'occasion d'une nouvelle alternance. À gauche, on fourbit ses armes, mais pour proposer quelle alternance ? Une alternance qui dirait, il est temps de faire payer les riches ? Il est temps d'avoir une vraie politique de gauche ? Dans un pays où vous avez le tiers du PIB qui est déjà redistribué, nous sommes les champions du monde de la redistribution sociale, 700 milliards d'euros sont redistribués chaque année, je vois mal comment on peut amener le curseur encore plus loin. Et je vous renvoie au ratio dépenses publiques sur PIB, nous sommes déjà au taquet. Alors, est-ce qu'on voudrait recourir à une alternance de droite, de vraie droite ? On peut en avoir le désir, la tentation, je ne vais pas dire le rêve, mais tentation de revenir à la France que je crois que nous avons tous connue, une France homogène, une France qui pouvait regarder son passé, son histoire en face, la faire partager à tous et avancer. Nous savons que la réalité démographique, culturelle de la France aujourd'hui ne permet plus, hélas, pardon pour le non, non pas pardon, mais ne permet plus, hélas, le retour à cette France qui était la nôtre. Je vous donnais un exemple, une statistique toute simple. Le triptyque des valeurs de patrie, de famille, de travail, la famille. Quand je me suis marié, donc c'était en 1997, on pouvait encore se dire que la famille était un fait majoritaire en France, puisque en 1997, 60% des enfants naissaient, seulement 40% des enfants naissaient hors mariage. D'accord ? Donc en 1997, 60% des enfants naissaient dans un mariage, qu'il soit civil, religieux, enfin en tout cas naissaient dans un mariage en France. Aujourd'hui, donc 23 ans après, ce sont 60% des enfants qui naissent hors mariage. Donc cela veut dire statistiquement que les enfants qui naissent aujourd'hui, 4 sur 10 naissent dans un mariage. Et quand on prend la réalité du taux de divorce en France, on sait qu'aujourd'hui, c'est en moyenne 1 enfant sur 5 qui va grandir et se développer dans une famille ni décomposée, ni recomposée. Voilà. Ce sont des faits. Ce sont des faits. On aimerait faire revenir le génie dans la bouteille, mais ces faits s'imposent à nous. Alors, est-ce qu'il faut baisser les bras et se dire, ben, tant pis, vivons chacun, chacun comme nous l'entendons dans nos tribus. Et c'est le risque, hein, d'une société qui va être de plus en plus parcellisée avec, puisque les réalités sont de plus en plus mouvantes et parfois socialement inacceptables pour les uns comme pour les autres, eh bien, on va décider de se refermer encore plus sur ses bases. Et se marier encore plus entre soi. Et se, bon. La même question se pose de l'autre côté du périphérique et dans les autres communautés, qu'elles soient sociales ou religieuses. Je crois qu'il y a encore une petite chance pour éviter cette destruction de la nation française, cette parcellisation sans retour de ce vieux pays qui a plus de 2000 ans. Et, alors pour moi, ce sont les États généraux. Alors, vous êtes toujours 21, donc, et en ayant redit États généraux, personne n'est encore sorti du bateau. Quand on dit les États généraux, en France, on tremble. Enfin, on se dit... parce que les États généraux que l'on connaît, quasiment les seuls que l'on connaît, ce sont justement ceux qui ont complètement dérapé. Les États généraux de 1789. Les États généraux de 1789 ont dérapé, puisque convoqués le 4 mai 1789, ils ont fini en juin 1789 avec le serment du jeu de paume. Nous sommes ici par la force, par la volonté du peuple et nous sortirons que par la force des baïonnettes, etc. Et bref, les États généraux ont dérapé, sont devenus une constituante aux mains ligotées, aux mains de l'extrême gauche de l'époque, des insurrectionnels, et qui donc a pavé le chemin vers d'abord la prise de pouvoir par une minorité, prise de pouvoir violente, les 300 000 Vendéens, on dit qu'il ne faut pas utiliser le mot de génocide, mais enfin en tout cas une guerre civile avec 300 000 morts, 1793, etc. Donc les États généraux, thanks but no thanks. Oui, mais sauf que les États généraux de 89 sont un accident de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose très... C'est peut-être un destin, c'est peut-être un... L'accident de l'histoire, c'est le suivant. Les États généraux de 89 arrivent 2 ans après l'Assemblée des notables de 1787, qui ressemblait un petit peu à notre grand débat, où on a essayé de trouver un accord et puis on n'y est pas arrivé. 1789, l'accident de l'histoire, c'est que tout démarrait bien. Necker avait fait son audit, le roi tenait fermement les commandes et allait, comme ça a été le cas pendant 800 ans, j'y reviendrai, allait utiliser ces états généraux en force consultative pour proposer, et c'était ça une démocratie à la britannique, c'est-à-dire une monarchie parlementaire. Sauf que le dauphin est mort. Quelques jours après la convocation des États généraux, le premier fils de Marie-Antoinette et Louis XVI est mort, maladie, et le roi, on dirait aujourd'hui, est tombé en dépression. Les écrits disent le roi a perdu la main, le roi a été volatile, etc. Le roi est tombé en dépression au plein milieu des États généraux. Quand vous avez le serment du jeu de paume, où est le roi, où est Marie-Antoinette? Ils sont en train de pleurer toutes leurs larmes à Marly, faire le deuil de leur enfant mort. Pourquoi je fais ce détour? Pour dire que lorsqu'on se lancera dans une dynamique d'états généraux, il faudra un souverain fort. Il faut un moment où le souverain élu, donc le président, est fort. Le seul moment dans la Ve République où le souverain en France est fort, c'est tout au début de son élection. On parle de l'onction démocratique, de l'onction républicaine. Tout au début. C'est tout au début qu'il faut faire et qu'il faut lancer un processus d'état généraux. C'est-à-dire, dès que le président de la République est élu, en mai 2022, il lance ce processus. Et au bout de 4 mois, c'est le temps qu'il a fallu aux juristes et aux parlementaires pour mettre sur pied la constitution de 58, arriver à une nouvelle constitution qui d'abord change les équilibres du pouvoir, à l'issue de quelques-uns des grands débats sur les sujets en fait, où nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, qu'il s'agisse du lien entre le travail, l'effort, la rémunération, qu'il s'agisse des sujets d'écologie, on ne peut pas, dans un pays moderne avec un tel bagage scientifique et un tel niveau de connaissance qu'est celui de la France, confier les clés de la future révolution industrielle à 150 GUS qui ont été choisis faussement par hasard. La Convention citoyenne, qu'est-ce que c'est ? C'est 2500 personnes effectivement tirées au sort et après qui ont été appelées une par une. Allô, ça vous intéresse l'écologie ? Non, pas du tout. Je mange des steaks tartare au déjeuner et je roule en diesel, etc. Bon, bah, très bien, on ne vous rappelle pas. Ça vous intéresse l'écologie ? Oui, tout à fait, je suis vegan, etc. On a en fait choisi 150 aficionados de l'écologie avec la Convention citoyenne et sans avoir ni de près ni de loin l'agenda des autres Français, l'agenda des autres parties prenantes. Donc, ce n'est pas ça. Mais en revanche, un programme d'État généraux, je vais vous prendre un exemple qui est peut-être le plus dur. L'islam. L'islam en France. L'islam en France, je ne veux pas condamner d'avance la loi sur les séparatismes, mais vous constatez déjà avec moi que même dans l'intitulé de la loi, on n'arrive pas à nommer la chose. C'est bien... Comment on va faire pour trouver une place à l'islam de France, faire en sorte qu'il y ait un islam de France qui ne soit pas un islam radical? Faut-il ou non envisager un concordat? Faut-il ou non? C'est pas une loi qui va permettre de dire, écoutez, l'islam de France, voilà ce que cela peut être et doit être. Et en revanche, toute cette partie-là, cela sort. C'est pas une loi. C'est pas un décret, c'est encore moins un référendum. Si vous commencez à jouer avec l'arme du référendum sur le sujet majeur de l'islam en France, vous mettez le pays à feu et à sang. En revanche, un processus d'État généraux qui part du terrain, qui part de la réalité des villes, des familles, des communes, avec des teneurs de plumes qui auront tous prêté serment à la démocratie, je ne dis pas à la République, mais à la démocratie, ça c'est pour éviter la prise de pouvoir par l'extrême gauche, qui verrait là une belle occasion de prendre le pouvoir, maintenant, c'est la démocratie. Pour un exemple, table ronde sur les États généraux de l'islam de France. Alors, écoutez, on peut discuter sur le voile, le ramadan, pardon de mettre les pieds dans le plat, hein, on peut discuter sur le voile, le ramadan, etc. Mais en France, il y a quelque chose qui s'appelle la liberté de conscience. Et là, il y a une affaire, on lit dans vos textes, qui s'appelle la criminalisation de l'apostasie. Si vous êtes musulman et vous changez de religion, vous êtes apostat, on peut vous tuer. Ben, en fait, là, ça passe plus. Et là, moi, je crois au fait que, pardon de dire, ceux qui sont pour la liberté de conscience et notamment la liberté de religion sont majoritaires dans le pays. Tant que c'est le cas, réécrire le contrat social avec cette force majoritaire et en mettant mettant tout sur la table avec la force du projecteur. Pourquoi les États généraux ça marche ? Et je vais m'en tenir là, j'aurais dû démarrer là-dessus. C'est parce que en fait les États généraux, c'est un outil de gestion majeure des crises majeures en France qui existe depuis que la France existe. Jules Michelet dit que le véritable acte de naissance de la France, c'est janvier 1302 à Notre-Dame, Notre-Dame qui, comme aujourd'hui, était en travaux, mais n'était pas encore achevée. Philippe le Bel réunit pour la première fois, c'est la nation rassemblée, le tiers-état, la noblesse, le clergé, et leur dit, écoutez, chers amis, on a un problème, c'est que nous devons faire la guerre en Flandre, nous n'avons plus d'argent dans les caisses, et le clergé est très riche, mais le pape Grégoire, je crois, c'était le pape refuse que nous taxions le clergé. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on taxe le clergé ? Et je fais ça de façon très grossière, pardon. Et l'accord a été, effectivement, oui, nous préférons vous nous taxer. Tout d'un coup, on a pris conscience que nous étions une nation, que nous avons pu être noblesse, clergé, terres, états, nous étions une nation assemblée. Je vais vous donner, sans vous abreuver de faits historiques, Henri IV, on parle du baptême d'Henri IV, hein, Paris vaut bien une messe, etc. Henri IV, pour devenir un souverain légitime, pour pacifier le royaume, se convertit au catholicisme après des états généraux. 1357, nous avons une France à feu et à sang. À feu et à sang, ce sont les grandes jacqueries dans les provinces et c'est Étienne Marcel à Paris. On est à la limite du coup d'État. On veut supprimer ou enlever des pouvoirs aux souverains, des états généraux. Les états généraux, en fait, dès qu'il y a un problème de légitimité, un problème de consentement à l'impôt, un problème de légitimité du souverain, consentement à l'impôt, de crise majeure, les frondes, comment est-ce qu'on a réussi à négocier les frondes, les états généraux. Au Moyen-Âge, vous avez eu des états généraux tous les 6 ans. Respiration incroyable, respiration démocratique incroyable dans un système que l'on croyait absolutiste. Des états généraux tous les 6 ans au Moyen-Âge. Et alors, les historiens vont plus loin. Ils disent, mais... Je lis Edgar Boutaric de l'École des Chartes. Voilà, on est en 1860. Il ne faut pas croire que la convocation des états généraux de 1302 par Philippe le Bel ait été un phénomène politique sans précédent. On rattache communément les états généraux aux assemblées mérovingiennes, carovingiennes, du champ de Mars, du champ de Mai. On invoque les représentants des 7 provinces de la Gaule convoqués en 418 dans la ville d'Arles. En fait, les états généraux, c'est quelque chose qui prend ses racines au 5e siècle après Jésus-Christ, qui prend ses racines au temps de Sainte-Geneviève. C'est consubstantiel à la nation française. Et moi, il me semble, sans faire de paris prophétiques désagréables, que nous allons vraisemblablement traverser des moments un petit peu compliqués et que plutôt que d'aller chercher un faux homme ou une fausse femme providentielle qui n'arrivera pas à grand-chose parce que le contrat social français est en lambeaux, et le fait que le contrat social français soit en lambeaux est aussi exprimé par un État qui n'arrive plus à fonctionner. Un État censé être au service de l'intérêt général. Vous le voyez, vous êtes à la tête de fondations. Vous voyez à quel point, avec des associations, des fondations, on peut faire 100 fois plus que les services d'un État qui se dit omnipotent, qui veut décider de tout, mais qui n'arrive plus à avancer le moindre pion. Sauf dans les domaines régaliens de l'armée, des services de secours et des services de police, et encore. Voilà. Donc, pardon d'avoir été un peu long, mais mon plaidoyer, c'est, alors j'essaie de convaincre aujourd'hui les politiques. Évidemment, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'en veulent absolument pas, parce qu'il s'agirait d'un transfert de compétences, notamment vers le terrain, d'aller vers un principe de subsidiarité très fort, où tout d'un coup, ce sont ceux qui sont sur le terrain, et je vous nomme, dans les dirigeants d'associations, les maires de grandes villes, les petites villes, les sénateurs, tout d'un coup, c'est le terrain qui doit organiser ces débats et qui doit s'en emparer et faire émerger le nouveau contrat. Mais je crois que c'est un outil que l'histoire avec un grand H nous tend la main, nous tend cette perche-là, et que nous devrions nous en saisir pour faire en sorte de continuer d'écrire l'histoire de notre pays sans violence. Voilà, j'ai été très, très long, j'espère pas trop confus, et j'ai déjà dépassé 30 minutes. Mais vous êtes toujours 21, donc je suis prêt à prendre les questions et les flèches des 21 participants et participantes.
Bon, merci Edouard. Je vais commencer à poser la première question, puis après les autres pourront y aller. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu parles de démocratie participative, mais en utilisant un terme du XVIIIe siècle.
Oui. Oui, parce que tu as raison. Et est-ce que peut-être que mon marketing n'est pas bon? Peut-être que justement, quand on dit états généraux, tout le monde entend 1789, ou alors grand débat qui n'a débouché sur rien, enfin sur rien, débouché uniquement sur un théâtre présidentiel assez extraordinaire, qui a quand même pacifié le pays à un moment de grande violence, mais qui n'a débouché sur rien de concret en termes de. Et peut-être que le terme de démocratie participative est effectivement plus moderne, plus fait. Ça sent moins la noblesse, le clergé, le tiers état. Qu'est-ce qu'il faut faire de nos trois ordres? Mais c'est bien de cela dont il s'agit. Je vous renvoie, il y a 15 jours, The Economist a fait toute une section sur justement les assemblées, la démocratie participative. Je ne sais plus comment il le traduisait, je vais vous le retrouver, mais montrant qu'effectivement, dans plusieurs pays, pas uniquement en France avec le grand débat, mais aussi en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Europe de l'Est, il y avait une multiplication de ces initiatives qui tendent à montrer que la démocratie qui fait triompher un fait majoritaire, en fait, devient un peu insuffisante aujourd'hui.
Alors, moi, j'avais deux questions pour vous. La première, donc, comme vous le disiez, les États généraux réunissaient les trois ordres. Aujourd'hui, comment vous envisagez ces États généraux? Ma question, c'est, je ne pense pas que tout le monde ait quelque chose à dire sur tous les sujets. Ça fait toujours un peu peur, cette démocratie participative. Je pense qu'il y a des gens plus compétents que d'autres. Il faut aller sans doute chercher les compétences sur le terrain, mais attention à ne pas donner l'impression que tout le monde peut parler et que toutes les voix se valent dans le sens, dans l'expertise. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je crois comprendre que vos États généraux déboucheraient sur une nouvelle constitution. Pour vous, quelles seraient les principales caractéristiques de cette constitution si on voulait retrouver un pacte social cohérent?
Ok. D'abord, c'est ça, je suis complètement d'accord avec vous sur le tout le monde. Comment dire? Vous avez vu à quel point là aujourd'hui tout le monde devient expert du coronavirus, ou expert en épidémiologie ou en écologie, en carbone, en décarbonation de la planète. Effectivement, tout le monde n'est pas qualifié pour répondre sur tous les sujets. Et la dernière chose que je veux, enfin que l'on voudrait. Bon, je reformule. Je vais vous dire comment je pense les trois ordres, entre guillemets. Mais d'abord, comment. Je reformule le point. Vous vous souvenez que les États généraux de 1789 avaient démarré avec des cahiers de doléances. En disant, ils sont remontés de toutes les communes de France, par les paroisses d'ailleurs, c'était assez intéressant, des cahiers de doléances écrits à la main, qui remontaient à Paris. La dernière chose à faire, c'est ça. Parce que vous avez vu l'état du pays et la mentalité aussi du pays aujourd'hui. Tout le monde a des doléances. Et si on commence à ouvrir des cahiers de doléances, la liste est infinie. Il ne faut pas commencer par les doléances. Il faut commencer par quelque chose de plus compliqué, mais qui me paraît essentiel, c'est un audit. C'est-à-dire, il faut une connaissance partagée par le plus grand nombre, et notamment par les délégués, une connaissance partagée de nos forces, nos faiblesses, de ce qui est possible à réaliser, ce qui n'est pas possible, de qu'est-ce que cela signifie une dette qui représente 100% de notre production de richesse annuelle, quels sont les atouts que nous avons et que nous n'avons pas encore déployés. Je ne sais pas si Sabine est là, mais ça lui fera plaisir sur les sujets maritimes. Nous sommes la deuxième nation maritime au monde en termes de surface. C'est un atout que clairement nous n'avons pas exploité. Donc, il faut d'abord commencer par une connaissance partagée de nos forces, nos faiblesses, ce qui nous constitue. Sinon, on parlera dans le vide, sinon ça sera la Ford Empoigne, le Yaka Faucon, etc. Ensuite, comment est-ce que j'ai imaginé les trois tiers, entre guillemets? J'imaginais 1200 personnes. Les États généraux 1789, c'était un peu moins, c'était 900. Les 600 premières personnes, c'est effectivement des personnes que l'on va faire émerger à partir du terrain. Est-ce que ce sont les départements, est-ce que ce sont les mairies, les communes qui doivent organiser les débats? Mais c'est tout le monde n'a pas des choses à dire, tout le monde n'a pas des talents. Voilà, organisons d'abord ces plateformes-là pour voir celles et ceux qui d'abord sont dans une épure démocratique. Tout le monde ne l'est pas. Et ça, il y aura clairement non seulement une prestation de serment sur nos prétends serments à la démocratie, etc., parce que l'extrême gauche dans ce pays, elle n'est pas morte et elle voudra saisir cette occasion pour. Donc, ça, les 600 personnes, ça seront un petit peu comme sélectionnées naturellement depuis le terrain et avec les outils numériques. Vous voyez, bon, ça, ce sont les 600. Et à ce corps majoritaire, 600 délégués, pardon de me lire, mais on pourra adjoindre deux corps minoritaires, 300 délégués pour les élus de la nation, mais pas n'importe lesquels. Aujourd'hui, vous prenez un député, il a plein de qualités, il travaille beaucoup, etc., mais il est d'abord l'émanation d'un parti parisien. Il est l'émanation d'un état-major parisien. Il est de plus en plus avec la loi de séparation des mandats, etc. Donc, 300 délégués qui sont maires, sénateurs, conseils régionaux, conseils départementaux. Et 300 délégués représentant tous ceux qui ont fait œuvre et vocation de servir et défendre les autres dans un pays où l'attention portée aux plus faibles est matricielle. Les syndicats participatifs voulant œuvrer à la construction d'un bien commun, les associations et les cultes, ces grands oubliés de la représentation nationale depuis deux siècles. Voilà mes trois tiers, vous voyez. 600 personnes, c'est l'émanation des débats locaux de terrain sur quelle France, quel contrat social voulons-nous demain. Et ensuite, 300 politiques, mais politiques de terrain. Pardon, enfin, vous voyez, je suis un farouche anti-jacobin, voilà. C'est dit. Autant je trouve que il y a des endroits évidents où nous devons tout centraliser. Ils sont finalement peu nombreux. C'est l'armée, c'est la police, la diplomatie, mais au fond pas tellement plus. Au fond pas tellement plus. Et je crois que nous sommes arrivés au bout de ce centralisme républicain. Donc, 600 délégués qui viennent des débats, 300 délégués qui sont les élus de la nation, et les 300, pardon de vous dire, mais c'est vous, c'est-à-dire les dirigeants d'associations, de fondations, les dirigeants de syndicats participatifs. Pour être très concret, c'est Laurent Berger, qui est une des personnes à qui je dédie ce livre, Laurent Berger, mais pas Martinez, et les cultes. Parce que les cultes qui ont vocation à œuvrer pour l'universel, leur parole a été souvent étouffée dans la construction et pas uniquement sur la bioéthique, hein, dans la construction du corpus législatif ces dernières décennies. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur tous les cultes, hein, culte musulman, culte hébraïque, culte chrétien. Et ils devront être partie prenante dans l'écriture de cette nouvelle constitution. Quelle constitution? Si je suis intellectuellement honnête et j'essaie de l'être, je veux dire, c'est celle, et c'est le pari, c'est celle que le peuple dans cette délégation, dans cette, c'est celle que le peuple se choisira pour lui-même. Donc évidemment, il y a une prise de risque. Et tous les choix ne seront pas. Mais vous voyez, au fond, le dernier exercice d'états généraux qui a eu lieu dans notre pays, c'était pas 1789, c'était mars 44, le Conseil national de la résistance. C'est tout d'un coup, vous avez des personnes qui viennent d'horizons incroyablement différents, qui se sont combattus avant, se combattront après, communistes, gaullistes, se combattront pour le pouvoir, se combattront à l'Assemblée. Mais là, tout d'un coup, il y a un impératif commun. Alors eux, c'était très particulier, c'était l'ennemi était là, et ils risquaient leur vie en se réunissant. Donc il fallait être sacrément efficace dans le débat. Mais au fond, c'est le même exercice. C'est qui voulons-nous être ensemble ? Qui voulons-nous, puisque nous avons des identités, des passés qui nous éloignent, eh bien, comment est-ce que nous nous projetons ensemble ? Mon souhait, c'est que la prochaine constitution qui arrive soit une constitution où, idéalement, les pouvoirs régaliens restent très concentrés, très forts, et je le souhaite plus fort qu'ils ne sont aujourd'hui. La police est une passoire. La police est faible par ses équipements et par sa culture d'action aujourd'hui. Nos armées accomplissent des miracles quotidiennement, mais là aussi en testant des limites. Donc du régalien plus fort, et en revanche tout le reste, et pardon pour Martin Hirsch, mais à commencer par la santé, l'éducation, tous les grands totems de la gestion paritaire, etc. Tout le reste, le terrain. Alors, je ne sais pas si c'est les compétences départementales, régionales, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas Valérie Pécresse qui a la haute main sur la gestion des hôpitaux de l'Île-de-France, avec évidemment une coordination nationale à un moment. Mais tenez, on va prendre cet exemple précis. Vous ne trouvez pas incroyable que dans la gestion de cette pandémie, la médecine militaire, la médecine de guerre, des personnes qui quand même savent comment décider dans l'urgence et déployer des malins, etc., était à ce point mise de côté, et qu'on s'est retrouvé avec des antennes administratives régionales qui dépendaient toutes de Paris, venir en doublon, en triplon, mais c'est de la folie. Donc, pour moi, oui, je souhaite que l'organisation des pouvoirs en France, issue de la future Constitution, soit beaucoup plus régionalisée, beaucoup plus… Et puis, avec une promesse centrale, c'est faites confiance aux Français, faites confiance aux entreprises, faites confiance aux associations, faites confiance aux gens. On est arrivé, probablement avec cette pointe, au bout de la logique inverse.
Merci Edouard. J'ai deux questions, une écrite et une orale, si vous avez encore un petit peu de temps à nous consacrer.
Moi, j'ai tout mon temps.
Bon, la première question, c'est comment éviter que de tels états généraux ne soient récupérés par le pouvoir en place, comme cela semble en prendre le chemin avec la Convention citoyenne. Et puis ensuite, on a un de nos participants, Elisabeth Terrien de la Fondation Cagette, qui a une question à vous poser sur les états généraux de l'éducation.
Oui. La première question est une crainte que je partage. Et le pire serait que le pouvoir gadgetise à nouveau cette ambition de démocratie participative pour le récupérer et pour dire, bah, écoutez, oui, je vous ai écouté, regardez, on a fait ci, on a fait ça. Mais on ne va quand même pas changer de constitution. C'est une crainte que je partage. C'est pour ça que c'est un signal. Alors là, c'est particulier parce qu'il y a le confinement. Donc, pour faire circuler des idées et faire campagne, ce n'est pas toujours simple. Mais c'est pour, C'est pour cela que, de façon non étonnante, je retrouve beaucoup plus d'écho dans les forces d'opposition, toutes les oppositions, au Sénat, dans les mairies, dans les conseils, que auprès de La République en marche. Le grand débat a vacciné les gens. C'est-à-dire, c'est le grand débat. D'abord, on a vu que c'est le pouvoir qui a choisi les thèmes. Ils sont pas venus du terrain. On a vu que ça a été un succès. Il y a eu 10 000 débats, 2 millions de contributions et souvent des choses pensées fortes. Pour aboutir à quoi? Pour aboutir de facto à « on ne bouge pas la ligne et la réforme des retraites, on va la faire ». Tout ça pour ça. Donc, je partage l'interrogation et je pense que c'est ce coup, il peut marcher si, un petit peu à la manière de ce qu'a fait Nicolas Hulot pour une précédente campagne, le sujet monte et fait entre guillemets dérailler le ronron de la campagne présidentielle qui va s'installer dans quelques mois et devient un des enjeux de la campagne. Et volontiers pour la question d'Elisabeth.
Alors, Elisabeth, tu as la parole. J'ai ouvert ton micro.
Merci Tessa. Bonjour. Moi, je suis la présidente de la Fondation CAGED, mais dans mes autres activités, je suis au comité directeur de Vers le Haut, qui est un think tank sur l'éducation et la famille, dans lequel je représente le Collège des Bernardins. Et on a lancé, il y a un an, je ne sais pas si vous le savez, les États généraux de l'éducation, et qui ressemble beaucoup en fait à ce que vous nous racontez là. Donc c'est pour ça que je me demandais si vous étiez au courant. C'est parti d'une demande du terrain et on fait un tour de France de 7 villes à partir de 7 thèmes. Et on a justement des groupes un peu comme ceux que vous avez décrits, des gens de terrain, des gens qui viennent des syndicats, des associations. On n'a pas les cultes parce qu'on est... on a été qualifié de trop catho, donc on est devenu plutôt aconfessionnel, mais bon, bien dommage. Mais enfin bon, on est de facto dedans, puisque les partenaires de Vers le Haut sont, pour certains en tous les cas, sont des juifs, sont des catholiques, il y a les scouts musulmans aussi dedans, donc on est quand même de facto dedans. Et puis... voilà, et l'idée, c'est d'essayer de rassembler à partir du terrain des grandes propositions, de se mettre d'accord sur des propositions pour l'éducation en France, pour en faire une charte de l'éducation et de proposer au gouvernement de l'adjoindre à la Constitution. Donc voilà, je me demandais si par hasard vous aviez entendu parler de... Et tous les citoyens peuvent voter sur une plateforme aussi, donc, et faire leurs propres propositions.
Bah écoutez, il faut que nous unissions nos forces. Et nos, non, mais c'est j'en avais entendu parler. J'aurais dû vous citer d'ailleurs. Mais c'est effectivement. C'est alors, moi, c'est vrai que ma visée, elle est assez politique. C'est-à-dire, c'est je propose vraiment de dire voilà, on a un contrat social à réécrire et on ne va plus y arriver. On n'y arrive plus, et je fais non pas un pari sur des événements durs, mais je ne suis pas certain que l'on arrive à la présidentielle de 2022 dans un climat de grande stabilité sociale, de grande écoute voilà, et c'est pour ça que moi j'essaie de lancer cette initiative, de faire cette campagne pour installer un processus assez large d'états généraux en 2022, mais clairement ce que vous et Blanquer il
est au courant. Il est tout à fait au courant. Oui, tout à fait.
Il peut être plutôt favorable, non?
Oui. Alors après, nous, on est quand même attentifs aussi de ne pas être récupérés par les politiques, donc pour pouvoir faire des propositions. Mais Vers le Haut est tout à fait connecté avec le cabinet de Blanquer. Donc, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en lien avec Marc Vanson, qui est le délégué général, qui est un type formidable.
Écoutez, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. D'accord.
Je demanderai à Tessa de me donner vos coordonnées alors.
Ok.
D'accord.
Je ferai le lien.
Merci Tessa.
Est-ce qu'il y a une ultime question ou Sabine conclut ?
Une question ? Comme on dit que nos conférences durent une heure pile, il est 18h29.
S'il reste une minute, d'abord un grand.
Ah. Attendez, on ne vous entend pas.
Tu as coupé ton micro, Dominique. Voilà.
Voilà.
Ça y est, ça marche. Oui, tout d'abord, un grand merci pour cet exposé très, très intéressant qui donne des perspectives d'avenir. Je me pose quand même une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas que dans les 1200, il y ait quand même des spécialistes de certains domaines parce que je pense que si vraiment on veut être efficace, il faut aller plus loin que des idées, il faut quand même être capable de mettre noir sur blanc les choses et des choses qui se basent quand même sur une expérience juridique que l'on a. Et ça, c'était ma première remarque. Deuxième point, bon, je sais que vous n'avez pas eu pour objectif de lister tous les sujets régaliens, mais moi, je pense qu'il y a un sujet régalien qui me tient particulièrement à cœur, qui est le fonctionnement de la justice. Ah. Ça, je crois que c'est vraiment parmi les grands manques ou les grandes faiblesses aujourd'hui de la France, c'est certainement un des domaines régaliens qui me paraît être dans un état absolument catastrophique, ce qui explique pas mal peut-être de difficultés.
Écoutez, le mari de magistrat que je suis ne peut que, hélas, qu'être d'accord avec vous. Il y a des statistiques incroyables. Vous voyez, par exemple, en termes de nombre de procureurs par habitant, dans l'Europe élargie, on est avant dernier. On est au niveau de l'Albanie, de la Serbie, enfin de la, c'est absolument lamentable. Donc il y a effectivement un dénuement. D'abord une absence incroyable de moyens financiers. Je suis conjugalement interdit de commenter les niveaux de rémunération des magistrats, mais quand on voit le taux horaire par rapport au niveau de responsabilité, c'est absolument scandaleux. Il y a un sujet aussi d'organisation, parce que c'est un peu comme l'hôpital public. Je ne sais pas ce que vous a dit Martin Hirsch, mais tout ne se règle pas par l'argent. Il y a un moment, il faut aussi voir de façon plus, avec un œil froid, les circuits organisationnels. Et je vous confirme qu'ils sont dans la magistrature aussi foireux qu'ils le sont dans l'hôpital public. Hein. Donc, tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, la justice, c'est compliqué parce que ça a une racine historique. Le pouvoir s'est toujours méfié des juges, parfois à juste titre. C'est De Gaulle, d'ailleurs, De Gaulle, quand il revient au pouvoir, qui fait la Constitution de 58, il décide que le pouvoir judiciaire n'en est pas un. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Donc, ce qui est un cran en dessous, parce qu'il a en mémoire que lors de Vichy, 100% des magistrats ont prêté serment au régime de Vichy. Donc, se méfiant beaucoup d'un corps qui est très sourcilleux de son indépendance, mais dont on peut voir que dès que quelques coups de menton, ça reste entre nous, hein, on n'est plus que 14. Dès que le pouvoir exerce quelques coups de menton un peu fort, ce pouvoir devient tout sauf indépendant. Et on l'a encore vu dans des sujets lors de la dernière campagne présidentielle de façon assez extravagante.
Merci. Voilà.
Merci Edouard. Alors tous ceux qui sont partis m'ont pris de les excuser. Il y en a même eu un qui a eu un incendie, une alarme incendie à son bureau, donc qui a filé. Donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Les prochaines visio mini conférences seront après les vacances de la Toussaint, si on a le droit de partir à plus de 100 km.
Et, ouais.
Et même si on n'a pas parti à plus de 100 km, on aura une série de visio qui reprendra à ce moment-là. Tessa vous enverra le programme. Merci à tous.
Mille merci Sabine. Merci Tessa. Merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Edouard. Voilà. Merci.
Au revoir.
À bientôt. Bonsoir.